Mashiach. C'est celui qui a mis des alachot sur le Mashiach, c'est le Rambam.
Et Souka David Anofelet, la Souka, la cabane, vous voyez, de David, qui s'effondre. Donc on voit bien qu'elle est tombante. Elle est tombante, Nofelet, c'est la même chose qu'avorton, Nefel. Tu disais quoi à propos du Mashiach?
C'est le Rambam qui a été possède sur les alachot de Mashiach en France.
Quelle est la question?
Est-ce qu'à partir du moment où c'est le seul, est-ce que ça doit forcément se passer comme il a dit?
Bon, l'argument que tu amènes, je reprends ta question. Le Rambam est le seul à avoir été possèque, comme ça que tu dis en hébreu, le seul à avoir été possèque des règles concernant le Mashiach. Donc étant donné que c'est le seul, est-ce que ça veut donc dire que tout doit se passer comme il l'a dit? Bon, cet argument, qui est que le Rambam est le seul à avoir été possèque et à la route du Mashiach, c'est effectivement un argument Lubavitch, mais qui est totalement faux. Parce qu'il n'est pas le seul.
Il n'est pas des Lubavitch qui montre ça, heureusement.
Ah bon? Parce que c'est un argument qui est très souvent repris dans le discours des Chabad, mais c'est totalement faux. Le Ramban a écrit un livre qui s'appelle le Sefer HaGeoula, et Rabbeinu Saadia Gaon a écrit toute une partie de l'Emunot Vedeot sur ce qui va se passer à l'époque du Mashiach. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas écrit le mot halakha au-dessus que ça veut pas dire ce que ça veut dire. Donc, affirmer qu'il n'y a que le Rambam qui en a parlé, c'est n'importe quoi. À part ça, le Rambam lui-même dit qu'il ne rentre pas dans le détail. C'est-à-dire qu'il parle de la chose dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'Israël reviendra à son indépendance, qu'il y aura le Beth Amikdash, qu'il y aura la paix dans le monde, etc. Mais le détail de comment ça va se passer, il dit lui-même qu'il ne peut pas le savoir. D'accord? Il y a des tas de midrashim qui ont été écrits autour de ça. Il y a des midrashim plus ou moins sérieux autour de ça. Par exemple, le texte de la Gemara en parle. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que le Rambam. À part ça, hein, la manière dont on lit le Rambam peut être lu de différentes... Il y a différentes manières de le lire aussi.
J'ai dû me battre avec ça tout Shabbat.
Ah bon? Quoi par exemple?
J'ai dû me battre avec des michifristes.
Ah ben voilà! Bon alors, ils ont une manière de lire le Rambam qui est absolument délirante.
C'est grave.
Non, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que dit le Rambam. Il faudrait un jour les mettre en place, je ne sais pas.
Bon.
Non, ça ne marchera pas.
Non, ça ne marche pas.
Non, quand quelqu'un rentre dans ce genre de logique, il n'en sort pas. Donc, essayons de voir ce que dit la Gemara, descend. Bon. Et Soukat David Anofelet, donc, le messianisme est appelé fils d'avorton, il est appelé une souka tombante. Pourquoi tout ça? D'abord, c'est quoi un avortement? Un avortement, c'est une tentative de naissance qui n'a pas réussi. Il y a une tentative. Or, dans l'histoire, il y a eu plusieurs fois des tentatives messianiques. On peut dire que toute grande civilisation, toute grande religion, toute grande spiritualité est une tentative d'enfantement du Mashiach. Alors, ça peut avoir différentes versions, des versions religieuses, des versions laïques. Par exemple, un des grands messianismes des temps modernes, c'était le marxisme. Le marxisme a été une tentative réelle d'amener un monde meilleur par les moyens de l'économie. C'est ça? Ça s'appelle un avortement. Un des derniers grands messianismes de notre époque, c'est ce qu'on appelle le processus de paix au Moyen-Orient. Je sais pas si on a entendu parler de ça. C'est aussi une sorte de messianisme, c'est même mystique. N'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai une fois expliqué à un de mes officiers à l'armée qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas la paix, parce que s'il y a la paix, ça va arrêter le processus. C'est-à-dire que le processus est devenu une sorte d'image mystique dont on ne peut pas se libérer. Et bon, mais il y a eu le christianisme, il y a eu tas de choses de ce genre. Maintenant, qu'est-ce qui... C'est dommage. On a souvent tenté, et ça n'a pas réussi. Mais... C'est vrai que ça n'a pas réussi, mais il en est toujours resté quelque chose. C'est-à-dire, de chaque tentative messianique de l'histoire, il y a eu quand même un résidu qui reste. Et le Mashiach est celui qui est le fils de ces résidus-là. C'est-à-dire, c'est lui qui fait réussir à travers sa personne toutes les tentatives échouées de l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé Barnaflé. Maintenant, pourquoi parle-t-on de la souka tombante? Alors justement, le Maharal de Prague explique que c'est un signe d'éternité. Parce qu'on ne dit pas une maison tombante, mais une souka tombante. Une souka n'est pas faite pour être permanente. Une maison, c'est fait pour être permanent, donc quand elle est détruite, la maison est détruite. Et si on la reconstruit, c'est une autre maison. Mais une souka, elle est faite pour être démontée et remontée. Donc même quand elle tombe, elle n'est pas détruite. Elle n'est que démontée. Ça veut donc dire que la royauté de David est quelque chose de permanent, d'éternel. Voyez-vous ? Bon. Donc, Etsuka David à Nofel. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'enracinement. Non, ça veut dire que la souka de David, elle est faite pour t'amener encore plus loin que la souka de David. Elle est faite pour t'amener au Olam Haba. L'Olam Haba aussi est appelé souka, dans Yeshayahu. Mais souka, t'y est, l'tel, yomam, michoref, ou le marseille, misère, ou imata. Alors donc, Rav Nachman Bar Yitzhak demande à... Rav Nachman demande à Rabbi Yitzhak, alors, quand est-ce que viendra le fils des avortons? Est-ce que tu as une tradition qui te dirait quand est-ce que viendra le Mashiach? Amarle, achi amar Rabbi Yochanan. Il est dit, voici ce que enseignait Rabbi Yochanan. Dor chez Ben David Babou. La génération où le fils de David doit venir. Talmidei Chachamim mitma'atim. Les Chachamim, enfin les rabbins, les Talmidei Chachamim, se réduisent. Zéhachar et les autres, qui ne sont pas des Chachamim, Enehem kallot beyagon va'anacha, leurs yeux sont épuisés par l'angoisse et le soupir. Vetzarot rabot et de grands malheurs. Ugzerot kashot et des décrets durs. Mitchadeshot sont innovés. Ad sharishona pekuda, shenia mimaharet lavo, jusqu'à ce qu'on se débarrasse de l'un, l'autre arrive rapidement. Donc ça veut dire que ça va mal à l'époque du Mashiach. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que ce qu'on dit d'abord, c'est que ça va mal? Eh bien, le Maharal de Prague, à nouveau, c'est lui qui nous illumine à propos de ces textes-là. Il explique que le messianisme, c'est l'innovation d'un nouveau monde. Donc, il y a, pour que quelque chose de nouveau apparaisse, il faut détruire ce qu'il y avait d'avant. Donc il y a toujours un creux de la vague, quelque chose qui vient, une sorte de héader, d'absence, qui précède l'existence. Un néant avant l'être. Donc, le néant est de deux manières. Il y a une néantisation du passé, il y a une préparation de l'avenir. Double néant. Et donc, ça se passe de cette manière. Talmidei Chachamim mitma'atim. Les sages se réduisent. Ça veut dire que les sages se réduisent. C'est-à-dire qu'il y en a moins? Non. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont plus petits. Ça veut dire que leur sagesse ne les sert plus. Pourquoi? Parce que quand on a de la sagesse, c'est pour comprendre le monde dans lequel on est. Mais le monde change. Et donc la sagesse qui pouvait auparavant analyser l'état du monde ne sert plus au nouvel état du monde. Ce qui explique que souvent, on pouvait avoir un grand racham qui dit des idées géniales, mais dans un autre monde. Comme s'il était dans une autre époque que celle où il vit. Parce qu'il n'a plus les clés pour comprendre ce qui se passe de son temps. Ça? Non, ça veut dire qu'il faut savoir écouter quel chacham écouter. Par exemple, la Torah nous dit, Uvata et la chauffette asher yebaem maem. Il faudra que tu ailles chez le sage qui sera en séjour. C'est un pléonasme. Si je vais chez un chacham, c'est évident qu'il est de mes jours. Ça veut dire que je dois chercher parmi les chachamim celui qui est de mes jours. C'est-à-dire, pas tous les chachamim sont de mes jours. Et donc, il faut chercher, que dit Rashi, Shofet Shebeyamecha, celui qui comprend dans quelle époque il vit. D'accord? Et c'est pas évident. D'ailleurs, quand est-ce qu'on prie pour les tzadikim dans le Shmona Esrei? Après le Kibbutz Galuyot. Oui, d'accord. Mais d'abord, il y a le Kibbutz Galuyot, Mekabes Nitzre Amo Israël, Ashiva Shoftenu, ramène nos juges, et après, donc, les hérétiques sont détruits. Et alors on prie pour les tzadikim, et après on prie pour Jérusalem. C'est-à-dire qu'entre le début du retour et la construction définitive de Jérusalem, les tzadikim sont en danger, puisqu'il faut prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on change de type d'existence. C'est-à-dire jusqu'à présent, on s'occupait du prat, de l'individu. À partir du moment du retour, commence la Torah du klal. Si le tzadik n'est pas adapté à cette idée que maintenant c'est le klal qui devient l'important, alors il se réduit. Il est réduit. Talmidei Chachamim mitma'atim. Parce qu'on passe du prat au klal. C'est ça? D'ailleurs, c'est ce qui se passe, on voit dans le livre de Yov. Il y a pas la même chose. on voit que Yov est un tzaddik. Et pourtant, bien que tzaddik, il lui arrive des tas de malheurs. Est-ce qu'il aurait un péché? Il n'en a pas. Alors pourquoi est-ce qu'il a des malheurs? Alors, il y a une allusion dans le texte du Tanakh qui nous dit qu'il priait parce qu'il avait peur, enfin, il amenait des sacrifices parce qu'il craignait que ses enfants aient péché dans la pensée. Oulai hateu banai uverchu Elohim bilvavam. Il avait peur qu'il y ait un blasphème dans le cœur de ses enfants. Ça veut dire que Yov était assuré d'être tzaddik, mais il n'était pas sûr que sa manière à lui d'être tzaddik pouvait être transmise à ses enfants. Ça veut donc dire que le monde était en train de se transformer du temps de Yov. Et que Yov n'était pas adapté au nouvel état du monde. Et donc il a souffert. D'accord ? Ce qu'il en dit très long sur beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'il dit. Oui ? Non, il se rend compte que ça change, mais il n'est pas adapté à ce qui change. Il sait qu'il ne pourra pas marcher. C'est pas de la mauvaise foi. Il comprend que ça ne marchera pas avec lui. Il n'a pas le choix. C'est ça qu'il fait dans la vie. Et par exemple, ça ressemble beaucoup à ce que dit le Zohar à propos des Méraglim. Les Méraglim, d'après le Zohar, n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils savaient qu'ils allaient être remplacés par d'autres chefs. Très bizarre ce Zohar, parce que ça voudrait dire que les Méraglim ont fait par intérêt personnel. Ils ont entraîné le péché du peuple tout entier. Ils voulaient rester dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, en Eretz Israël, on sera remplacé. Je pense qu'il faut comprendre le Zohar d'une autre manière. C'était des tzadikim. Et ils comprenaient qu'ils n'étaient pas faits pour Eretz Israël. Mais ils savaient qui étaient les candidats à les remplacer. Ils disaient, ah, ça sera celui-là et celui-là. On ne leur fait pas confiance. Donc, il vaut mieux souffrir de rester dans le désert encore pendant 40 ans, que soyons nous qui dirigeons le peuple, plutôt que ce soit ces freluquets qui prennent la place. C'est-à-dire que c'est pour le bien d'Israël qu'ils ont voulu empêcher d'entrer en Eretz Israël. Vous comprenez? Et il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on est parfois figé dans un certain mode d'existence. Ça me rappelle un peu l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslav à propos de ce qu'on appelle tzaddik veralo. C'est quoi le tzaddik veralo? D'après Rabbi Nachman, c'est le tzaddik vetovlo, c'est le tzaddik shehalacha kemoto, c'est-à-dire le tzaddik comme qui on fixe la halacha, c'est-à-dire le tzaddik qui comprend dans quelle génération il vit. Il y a le tzaddik veralo, c'est le tzaddik shehen halacha kemoto. Il est tzaddik, mais il est d'une autre génération. Donc la halacha n'est pas comme lui. Donc il souffre. Alors c'est quoi le racha vetovlo et le racha veralo? Le racha veralo, le racha vetovlo, c'est le racha qui est dans le voisinage du tzaddik chez Al-Hak Moto. Il a une chance extraordinaire, ce rachat. Il connaît des tzaddikim qui comprennent leur génération, donc il a une chance de faire teshuva. Tandis que le rachat Veralo, c'est un rachat malheureux. Le tzaddik qu'il connaît, c'est le tzaddik chez Al-Hak Moto. Donc il n'a aucune chance de faire teshuva parce que le tzaddik ne le comprend même pas. D'accord ? Donc c'est ça, Tanidé Chachamim Mit Ma'atim. V'ashar, et le reste, leurs yeux s'épuisent par l'angoisse et le soupir. Pourquoi cette différence entre les Chachamim et les autres? Parce que les Chachamim, ils ont au moins la Chochma. Quand on a de la Chochma, même si ce n'est pas la Chochma adaptée, même si elle est réduite, c'est une Chochma quand même, qui permet donc de soutenir les enjeux de ce qui se passe. Tandis que les autres qui n'ont pas de Chochma, ils ne savent pas comment affronter les difficultés du jour. Vetarot rabot ou zerot kachot mitradeshot, et donc de nombreux décrets, ça vient de l'extérieur déjà, se multiplient dans le monde, etc. Tanoura banal. Et là, on rentre dans le détail. Shavua chez Ben David Babo. C'est quoi Shavua? C'est 7 ans. C'est une semaine d'année. C'est-à-dire, la semaine d'année, pendant les 7 ans, chez Ben David Babo, où le fils de David doit venir. Alors il y a ici une liste de ce qui se passe pendant les 7 ans. En vérité, je pense qu'il faut comprendre ça non pas comme 7 ans mamash, mais comme étant 7 périodes. Il doit se passer 7 choses, 7 périodes vont se passer à l'approche de l'avenir du Mashiach. Shana Rishona, Mitkayem Ikrasé. La première année, il se passe hein, ce verset-là. Vim Tarti al-Irahat. Val irachat lo amtir. je ferai pleuvoir sur une ville et je ne ferai pas pleuvoir sur l'autre. Ah bon? Ça s'est passé quand, ça? Shana Shinia, la deuxième année, Hitze Ra'av Mishtalchim. Les flèches de la famine sont envoyées. Shelichit, et dans la troisième année, Ra'av Gadol, une grande famine, où Metim et meurt, Anashim Venashim Vetaf, des hommes, des femmes et des enfants. Chassidim Vanshe Maase, des hommes pieux et des hommes de bonnes actions. Le Torah, Mishtakachat Milomdea, et la Torah est oubliée de ceux qui l'étudient. Évidemment que c'est la Shoah. Il y a eu une grande famine, des millions ont été décimés, hommes, femmes, enfants, chassidim, anshe maase, et la Torah a été oubliée. Les yeshivot ont été détruites. Donc, la troisième année dont il est question, c'est la Shoah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant la Shoah? Non, il y a eu tout simplement une crise économique terrible qui a précédé la Shoah, en 1929. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu des pays qui allaient bien, des pays où ça n'allait pas bien. Ça veut dire qu'il y avait, il y avait une différence, si vous voulez, de prospérité économique. Il y avait des pays qui étaient dans la prospérité, des pays qui étaient dans la détresse. Et puis après, il y a eu la crise économique de 1929. Donc il y a eu Chitzera Mishtachim. Et puis après, ça a amené la catastrophe. C'est ça donc les trois étapes dont parle la Guémara. Qu'est-ce qui se passe après? Barévit, la quatrième étape. Sova veno sova. C'est la satiété sans vraiment satiété. C'est-à-dire que, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé à aller mieux. Il y a eu l'État d'Israël. Mais c'était pas très, très, hein? Il y a eu des problèmes de société. Et puis il y a eu il y a eu ce qu'on appelle le TENA. Il y avait le rationnement des denrées à l'époque. Ceux qui ont vécu à cette époque savent qu'il y avait une pauvreté organisée. D'accord? Donc, sova, veno sova. On est rassasié sans être rassasié. Bahamishit, mais dans la cinquième phase, c'est depuis la guerre des six jours. Sova gadol. Il y a une grande satiété. Veochlin vechotin usmechim. On mange, on boit, on se réjouit. Vetora choseret elomdea. La Torah revient à ceux qui l'étudient. Effectivement, depuis la guerre des six jours, il y a une abondance qui va croissante de Torah dans le peuple juif. Bashishit kolot. Lors de la sixième phase, il y a des voix. C'est quoi les voix en question? Que dit Rashi? Regardez, c'est très intéressant dans Rashi, vous regardez à droite, à la septième ligne, Bashishit kolot. Yatseu kolot chez Ben David ba. Des voix se font entendre que le fils de David est en route. Il y a une effervescence messianique qui commence à se manifester. Et donc des gens commencent à penser que le Mashiach est en route. C'est la sixième phase. C'est ça? On a vu ça aussi. Une effervescence messianique. Bashivirit, dans la septième phase, Milchamot. Il y a des guerres. Il y a des guerres depuis un bon moment. N'est-ce pas? Ça a commencé d'ailleurs dans la Shemitah de l'an 2000. Vous vous rappelez? En l'an 2000, il y a eu une Shemitah. C'est là qu'a commencé l'Intifada. Et depuis, on est en guerre. Bashivyait Kolot. Et Bashivyait Milchamot, pardon. Bemotsae Shivyait. Et après, la septième phase, Ben David va. Le fils de David arrive. Intéressant de voir que ces derniers temps, il y a une crise de régime en Israël, très forte, qui fait que les gens sont désespérés de la politique. À tel point même qu'ils sont prêts à mettre n'importe qui au pouvoir. D'accord? Et donc, c'est une préparation. C'est-à-dire, on a vu ici, donc, toutes les sept phases accomplies. Il ne reste donc plus que la septième phase. Interprétation d'actualité de l'enseignement messianique de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yochanan dit, d'où est-ce que Rabbi Yochanan sait tout ça? Est-ce qu'il est prophète? Rabbi Yochanan n'est pas prophète. Ce qu'il fait, c'est qu'il analyse la manière dont ça doit se faire. Si vous avez remarqué, les trois premières années, ça va de plus en plus mal. La quatrième, c'est moyen, sova veno sova. 5, 6, 7, ça va bien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chute et de remontée. Oui, bien sûr. C'est les guerres qui annoncent le Mashiach. Les guerres de Gog et Magog, tout ça. Donc, la Gemara dans Megillah dit Milchamot Atrata de Geoula. Quand il y a la guerre, c'est le début de la Geoula. Et donc, ce que dit ici Rabbi Yochanan, c'est que puisque nous savons qu'il y a un nouveau monde qui doit apparaître, donc il doit y avoir une décadence de l'ancien monde et une gradation qui mène au nouveau monde. Donc c'est pour ça qu'il divise ça en trois années descendantes et trois années ascendantes avec une année médiane. Donc il n'est pas prophète, il fait simplement canaliser la logique du mécanisme. C'est pour ça, bien sûr, il donne des grandes lignes des choses. Amar Rav Yosef. Alors Rav Yosef, lui, a une objection. Ah, Kamash Virid Abachen Velahata. Il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu ces genres d'événements et le Mashiach n'est pas venu. Amar Abaye lui a répondu. Bashishit Kolot Bashivirit Milhamot Miava. Est-ce qu'il est arrivé que dans la sixième phase il y ait des voix et que dans la septième il y ait des guerres? Veod Kesidran Miava. Est-ce que dans cet ordre-là ça a été? Donc, il faut, ça ne s'est pas encore produit, enfin, du temps de Abaye. De nos jours, on a le sentiment, effectivement, que c'est en train de s'accomplir, ce qui est merveilleux. Voilà.
Et bien, c'est le désespoir entraîné par la guerre qui a fait le messianisme avant.
C'est possible.
C'est dans l'autre ordre.
Ah, c'est dans l'autre ordre, exactement. Tandis que là, il y avait un optimisme au contraire. On dit, ah, le Mashiach va venir, il connaît.
C'est tellement grave que le Mashiach va venir.
Oui, ça. Avant. Mais non, c'est le contraire. Ça va tellement bien que le Mashiach doit venir.
Pour le faire venir, la guerre va venir.
Exactement. Top. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande de ramener la deuxième feuille seulement. La première ne m'intéresse pas. Chazak ou Baruch.